Salut, voici le PodMag numéro 1. Le PodMag, comme son nom l'indique, est le magazine du podcasting que vous propose chaque semaine France Podcast. Au sommaire de ce premier numéro, nous parlerons de l'actualité du podcasting avec notamment Apple et Smartfeed. Le dossier de la semaine sera consacré au moteur de recherche de podcast, un dossier très court cette semaine. Pour finir, un coup de projecteur sur Bertrand Lenôtre, le podcasteur qui collabore avec Pointblog, et nous écouterons son interview. Mais de suite, l'actualité du podcasting. Ça y est, Steve Jobs l'a annoncé officiellement lors de la dernière Worldwide Developer Conference d'Apple, iTunes intégrera un client podcast. iTunes 4.9, c'est son nom, permettra aux possesseurs d'iPod de synchroniser leur podcast directement avec iTunes. Bien sûr, tout cela n'est pas innocent de la part de Steve Jobs, qui devrait par la même occasion proposer des podcasts diffusant des contenus protégés, le tout payant bien sûr. Dans le même temps, la fondation Mozilla, qui développe Firefox, le navigateur web, a annoncé que la prochaine version de Thunderbird, son gestionnaire de courrier, l'équivalent d'Outlook ou de Mail, allait proposer le podcasting. Sortie attendue pour juillet prochain, on en reparlera à ce moment-là. Le podcasting, c'est tendance, du moins c'est l'effet que j'ai eu quand j'ai vu Queer Eye Podcast. Comme son nom l'indique, c'est le podcast des queers. Mais oui, ces 5 garçons qui viennent chez vous pour vous relooker et vous métamorphoser, maintenant ils donnent leurs conseils en podcasting. Peut-être bientôt la version française. Vive le podcast marketing. Dans un tout autre registre, un exemple américain que beaucoup de médiathèques françaises devraient suivre, c'est celui du New York Public Library, excusez-moi pour l'anglais, en fait la bibliothèque publique de New York, qui propose une collection de livres audio à télécharger 24h sur 24, 7 jours sur 7. L'accès est libre, on peut l'écouter sur son lecteur MP3, son portable et même les graver. La nouveauté logicielle cette semaine, c'est Smartfeed. Smartfeed est un soft gratuit de podcasting. Pourquoi je parle de ce lecteur à votre avis? C'est parce qu'il s'agit d'un lecteur pour Pocket PC et smartphone. Smartfeed marche sous Windows Mobile. Il est un des précurseurs dans le domaine des lecteurs de podcasting pour téléphone portable. Alors si vous souhaitez le télécharger, allez consulter les liens que j'ai ajoutés au podcast. Reporters sans frontières s'est outré de la manière dont Microsoft censure MSN Spaces en Chine. Alors MSN Spaces, c'est l'offre en matière de blog de Microsoft. Or quand un blogueur chinois essaye d'écrire les mots Dalai Lama, 4 juin, le 4 juin étant la date du massacre de la place de Tiananmen, Chine plus corruption, ou alors écoutez bien, démocratie et droits de l'homme, ont un message d'avertissement lui apparaît qui lui signale que la note contient une expression interdite. Bienvenue chez Microsoft. Enfin, pour finir, l'actualité de la semaine la plus importante, c'est la reine Elisabeth II qui l'a faite. Elle va peut-être se mettre au podcasting puisqu'elle vient d'acquérir un iPod mini de 6Go. Alors, pour ceux que ça intéresse, c'est un iPod mini argenté. Le dossier de la semaine est consacré au moteur de recherche de podcast. De nombreux sites de référencement de podcast apparaissent aux États-Unis, notamment podcast.net ou Podnova, parmi les plus sérieux. Mais de nouveaux problèmes surviennent. L'exemple d'Odeo est le plus marquant. Odeo avait utilisé les podcasts de son annuaire, mais avait remplacé les fils RSS de ses propriétaires par des fils RSS Odeo, ce qui lui permettait de rajouter de la publicité. Cela a bien entendu fait scandale dans la communauté des podcasteurs américains, et Odeo a dû faire marche arrière en remettant les fils RSS originaux. Le podcasting francophone est lui beaucoup plus pauvre. Je n'ai trouvé dans mes recherches qu'un seul annuaire de podcast francophone, il s'agit de podblaster.net, qui se lance dans l'aventure. Ce sont au départ des Canadiens qui podcastaient en anglais, et qui cherchant des podcasts francophones à écouter et n'en trouvant pas, ont décidé de créer un annuaire francophone. Je vous invite d'ailleurs à référencer vos podcasts chez podblaster.net. À part eux, c'est plutôt le vide. On peut essayer de trouver tout de même son bonheur chez le podcasteur, ou alors Podofeu, qui répertorie les podcasts musicaux. Pour finir le PodMag numéro 1 cette semaine, France Podcast a décidé de vous parler de Bertrand Lenôtre, le podcasteur. Alors Bertrand a fait 20 ans de radio et cela s'entend. Il a découvert le podcasting il y a quelques mois, c'est un ami vivant aux États-Unis qui lui en a parlé et il est devenu un des précurseurs du podcasting francophone. Il collabore aujourd'hui avec pointblog.com pour qui il réalise le magazine du blogging tous les vendredis. Dernière info avant d'écouter l'interview que Bertrand nous a accordée, si vous voulez voir à quoi ressemble le podcasteur, je vous conseille d'aller voir le reportage que Nouveau, Nouveau, a fait sur lui. Mais pour le moment, on écoute Bertrand. Bertrand Lenôtre, bonjour.
Bonjour Julien.
Première question, qui est le podcasteur?
En fait, le podcasteur, c'est quelqu'un qui fait de la radio depuis une vingtaine d'années, qui a fait de la radio, on va dire précisément, parce que j'en fais plus sur un fil traditionnel de radio, et qui avait envie tout simplement de trouver d'autres moyens d'expression, pouvoir dire ce qu'il avait envie de dire, sans avoir nécessairement un chef au-dessus, sans avoir des impératifs commerciaux directs qui aujourd'hui ont tendance quand même à dicter fortement les contenus des médias et des radios en particulier. Et l'envie de participer à la grande fête des nouvelles technologies sur Internet, de découvrir un nouveau monde, donc des nouvelles personnes, donc des nouvelles façons de s'exprimer et évidemment des nouveaux discours. C'était ça l'idée. Donc le podcasteur, c'est juste quelqu'un qui utilise ses compétences entre guillemets professionnelles pour essayer de proposer autre chose que ce qu'on a l'habitude d'entendre.
Et vous avez découvert le podcasting comment?
C'est un copain qui habite à Los Angeles, qui développe des projets Internet depuis une bonne dizaine d'années maintenant et qui m'a alerté là-dessus il y a 6 mois à peu près. Ça a commencé à bouger aux États-Unis à partir du mois de septembre et à partir du mois d'octobre-novembre, il a commencé à me brancher vraiment sur cette nouveauté en me disant qu'il se passait quelque chose aux États-Unis, qu'il y avait cette nouvelle technologie, que les liens RSS permettaient vraiment d'envisager autrement la diffusion de l'audio ou de la vidéo. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'affaire, me rendre compte qu'il n'y avait absolument personne dans la partie francophone. Et le temps de comprendre un peu ce qui se passait, parce que tout ça c'était en anglais, que techniquement c'était encore un peu compliqué, il a fallu 2 mois à peu près pour se plonger dans le bain technique, comprendre, mettre en place et démarrer en janvier.
Aujourd'hui, les hébergeurs français proposent très peu d'offres de podcasting. D'ailleurs, le podcasteur est hébergé chez Blog Harbor, un hébergeur américain. À votre avis, quelles sont les raisons qui font que les hébergeurs français tels que Typepad ou Overblog mettent tellement de temps pour proposer enfin des offres valables en matière de podcasting?
Alors c'est la vraie bonne question, mais je crois qu'en fait les hébergeurs français n'ont pas tellement intérêt pour l'instant à mettre en avant le podcasting, parce que le podcasting, le principe, c'est que ça mange un maximum de bande passante. Et que la bande passante, c'est un des critères sur lesquels on facture les hébergements. Il y a l'espace disque qui est limité chez la plupart, on peut avoir 200 mégas, alors ça peut encore aller, mais on est limité en général à 1 giga de bande passante par mois. Et là, pour le podcasting, pour peu qu'on soit un petit peu écouté, ça dépasse très largement. C'est ce qu'il faut pour une journée et même largement plus pour le podcasteur. Donc, ils n'ont pas tellement envie de proposer des forfaits qui soient à des prix adaptés et qui permettent à des podcasteurs de manger de la bande passante parce que quelque part, le calcul économique pour eux n'est pas très rentable. Donc, pour l'instant, je crois que les plateformes ont tendance à se dire ne faisons pas trop en sorte que ce phénomène se développe au niveau francophone et on n'aura pas à répondre à ce genre de demande de podcasteurs en hébergement. Il y a quand même Viabloga qui est autre chose, qui est une plateforme plutôt associative, qui n'a pas vraiment de notion de rentabilité, qui vient, elle, justement, après une discussion qu'on a eue ensemble, de mettre en place les éléments qui permettent de faire du podcasting. Donc il y a une première plateforme française qui enfin s'y est mise un petit peu.
Bertrand Lenôtre, c'est le podcasteur qu'on peut écouter chaque semaine sur www.podcasteur.com. Mais aujourd'hui, vous collaborez également avec pointblog.com pour le magazine du blogging. Comment cette collaboration a vu le jour?
Ça s'est fait tout naturellement, en fait. J'ai commencé à faire mon podcast, donc mon podcasteur. Et puis, j'ai commencé à interviewer, comme vous êtes en train de le faire en ce moment, des personnes qui sont dans la blogosphère. Alors, je suis allé vers des personnalités qui marquent la blogosphère. C'était une façon pour moi de parler directement de ce qu'il y avait de pointu là-dedans, et puis aussi une façon, faut le reconnaître, de me faire connaître en interviewant ces personnes-là. Donc ça a fonctionné, puisque ces personnes que j'interviewais se sont mises à écouter les émissions qu'on avait faites ensemble, les autres, et sont mises à apprécier, je pense, le travail qui était fourni sur le podcasteur, et à se dire que peut-être il y avait quelque chose à faire pour elles. Je crois que c'est naturellement comme ça que ça s'est passé pour un blog. À l'issue d'une interview de Cyril Fievé, et puis après de Christophe Ginisti, ils se sont dit, tiens, on aimerait bien participer de la fête et avoir notre propre podcast. Donc, presque naturellement, ils sont venus vers celui qui était venu naturellement vers eux. C'est si tu viens à Lagardère revient à toi ensuite. Voilà.
Le podcasteur, c'est plus qu'un blog ou un podcast pour vous, c'est un véritable projet. Après quelques mois d'existence, une collaboration avec Poinblog, si vous deviez tirer un bilan, quel serait-il? Il serait plutôt positif, je suppose.
Le bilan est plutôt positif, oui, parce que c'est vrai qu'il y a une reprise dans les médias, que ce soit audio, les radios et notamment aussi la presse écrite qui est importante de ce qui se passe sur le podcasting. Et à chaque fois, c'est vrai que le podcasteur est assez bien cité, donc ça c'est valorisant. Mais le bilan est positif aussi parce que moi je suis avant toute chose quelqu'un qui est au chômage au départ, qui a quitté une radio que je dirigeais chez moi à Grenoble il y a quelques mois. Et qui a décidé de gérer ça comme un projet professionnel, c'est-à-dire avec l'envie affirmée, tout à fait claire, de trouver pardon, du travail dans ce domaine-là, de développer quelque chose qui puisse me faire vivre. Et pour l'instant, les choses se passent plutôt bien, puisque des personnes me proposent aujourd'hui, elles sont assez nombreuses d'ailleurs, de faire des podcasts pour lesquels on peut me payer. Donc, ce qui est le but du jeu que j'avais défini au départ.
Bertrand, avec le podcasteur, vous savez que vous êtes un peu un des précurseurs du podcasting en France. Si je vous demande quel est l'avenir du podcasting, est-ce que vous le voyez plutôt comme un avenir plus commercial ou un avenir toujours avec autant d'amateurs et de passionnés?
Il me semble que ça va être un mélange des deux. Il y a évidemment les passionnés qui vont continuer à faire des podcasts et j'espère de plus en plus nombreux au niveau francophone parce que pour l'instant, la marge de progression du nombre de podcasts n'est pas du tout à la hauteur de celle qu'on a connue aux États-Unis où il y en a aujourd'hui plusieurs milliers. En France, j'ai recensé récemment environ 25 podcasts, en tout cas au niveau francophone. Alors tous ces podcasts sont faits par des gens dans un principe amateur au sens d'aimer, de façon totalement désintéressée économiquement, mais c'est vrai que les médias traditionnels, eux, vont être obligés de s'y mettre. Et là, on peut dire que notamment en France, ils prennent un retard qui commence à être assez visible. Ça a démarré avec Couleur 3 en Suisse, ça a démarré avec Radio-Canada au Québec. Et en France, pour l'instant, il n'y a toujours aucune réaction, alors que c'est une évidence pour moi que les médias traditionnels, et notamment les radios de parole, comme les radios de service public, France Inter ou France Info, ne vont pas pouvoir échapper longtemps à ça, ils vont devoir s'adapter à cette nouvelle forme de diffusion radio, trouver des solutions. Et alors j'espère qu'ils sont en train de se pencher là-dessus, mais il y aura de toute façon à la fois Monsieur Tout-le-Monde qui pourra faire son podcast sur sa façon de jardiner ou sa vie privée avec sa petite copine, et ce sera tant mieux. Et puis de l'autre côté, la possibilité d'écouter les grandes émissions de France Inter ou les chroniques de France Info ou les talk-shows de RMC ou d'autres en podcast, ça semble un phénomène qui est irréversible aujourd'hui, naturel. Il va falloir qu'ils s'y mettent.
Certains analystes comparent le podcasting aux radios libres des années 80. Alors, est-ce que le podcasting, c'est les radios libres des années 2000?
Oui, alors faut peut-être pas exagérer sur ce phénomène-là, parce que je pense que chaque podcast est très très ciblé aujourd'hui. Les radios libres, assez rapidement, se sont dit il faut qu'on trouve de l'audience. Donc chacune des radios est allée d'abord vers la musique beaucoup, et ensuite vers des discours qui étaient assez grand public la plupart du temps pour essayer de trouver une audience. Alors que là, le podcast, c'est la possibilité pour Monsieur Tout-le-Monde de produire une émission de radio qui soit très très ciblée, qui s'adresse à un nombre extrêmement limité de personnes. Mais grâce au maillage de la blogosphère et d'Internet, on peut arriver à trouver son public. Donc je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment dans la même dynamique que les radios. Ce qui est sûr, c'est que ça libère la parole. Ça, c'est une évidence. Mais on a vu aussi que les radios libres ont été un immense fiasco et qu'aujourd'hui, la parole libérée des radios libres, c'est Énergie et Europe 2. Et donc ça n'apporte absolument plus rien au paysage intellectuel français depuis très longtemps.
N'y a-t-il pas un risque avec les moyens financiers qu'ont les grands médias traditionnels, radio, télé, de voir un peu disparaître le podcasting tel qu'il est actuellement au détriment d'un podcasting plus formaté, plus dans les normes, peut-être moins intelligent, moins intéressant?
Absolument, on va arriver certainement à une domination outrageuse des médias traditionnels quand ils vont s'y mettre, ça c'est une évidence. Mais le podcast, il ne faut pas oublier qu'avant toute chose, l'intérêt du podcast, c'est que c'est de la radio parlée essentiellement. Moi, j'ai tendance à considérer que le podcast, quand il est purement musical et qu'il s'agit simplement de balancer une playlist musicale ou un morceau, ça n'apporte pas grand-chose de plus que le streaming classique qu'on avait sur Internet. Quand on parle, on est obligé de raconter des choses. Et à l'intérieur des gens qui sont pas dans les grands médias, dont je fais partie, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent arriver à avoir des discours qu'on n'entend pas sur les radios traditionnelles et qui vont trouver, à terme, dans la dynamique générale, une audience. Donc il y a des personnalités, ça se passe comme ça aux États-Unis aussi, qui ne sont pas issues des grands médias et qui sont en train de trouver, au milieu des grands médias, dans les podcastings, une audience qui est intéressante. Donc c'est simplement la possibilité de changer un petit peu de changer quelques cartes. Évidemment, les grands médias vont diriger à 90%, mais il y aura un 10% d'ouvert, en fait, pour que un plus grand public puisse écouter des discours qui ne soient pas aussi traditionnels que ceux qu'on entend sur les médias classiques.
Bertrand, on arrive bientôt au terme de notre entretien. Juste quelques petites questions. Quel est pour vous le meilleur podcast français?
Le meilleur podcast français,
Oui, à part le vôtre,
c'est un. Oui, à part le mien.
hein.
Non, non. C'est difficile à dire parce qu'il y a des personnalités vraiment différentes. Moi, j'aime bien ce que fait Luc Saint-Élie, qui est d'ailleurs le premier à le faire, parce que c'est quelqu'un et c'est le seul aujourd'hui qui prend un micro pour ouvrir sa gueule et qui dit franchement ce qu'il pense. Et je trouve que le milieu de la blogosphère, qui est censé être un espace de liberté, est quand même beaucoup occupé par des gens qui ont peur de dire des choses parce qu'on a peur de mal se faire voir. Donc Luc Saint-Élie prend des risques et balance de temps en temps, donc ça c'est bien. J'aime bien l'idée du podcast de Kenji au Japon, qui se balade dans les rues du Japon avec un micro et qui essaie de raconter ce qu'il vit, quels sont les modes de vie au quotidien au Japon, quelles sont les traditions. J'aime bien cette idée-là parce que je pense que c'est un des vrais avenirs intéressants du podcast. Mais il y a d'autres choses, hein. Il y a des Québécois qui font des choses bien, il y a Jean Lalonde, évidemment il y a Bruno Guglielminetti de Radio-Canada qui fait un podcast de son émission qui est une émission d'information sur Internet, et ça c'est vraiment intéressant. Donc il y a des choses qui commencent à émerger, qui sont vraiment sympas. Et puis il y a Thierry Weber également en Suisse qui fait un podcast d'information sur Internet qui commence à être vraiment bien aussi.
Et le meilleur blog pour vous, le meilleur blog francophone?
Le meilleur blog.
Ah, ou alors ça vous intéresse pas du tout?
Si, si, bien sûr que ça m'intéresse. Évidemment, mais il ne faut pas oublier que les podcasts ne sont qu'une transposition audio des blogs. Donc c'est l'esprit des blogs doit flotter sur le podcasting normalement. Le meilleur blog, c'est vraiment difficile à dire. Je dirais, pour faire faillot, que c'est point blog.
Alors on reste dans la série des meilleurs, après le meilleur podcast français, le meilleur blog, quel est pour vous le meilleur auteur de blog francophone?
Alors là, il n'y a pas photo, je crois. C'est 20-20, franchement. 20-20. C'est 20-20 qui 20 sur 20 qui me semble être quelqu'un qui a une plume qui me plaît, qui est capable de délirer vraiment. Et dans les auteurs, puisqu'on parle d'auteurs, il ne s'agit pas là d'avoir un discours sur le monde ou d'avoir un discours qui fait référence, mais simplement d'utiliser le blog comme un outil de délire. Et je crois que lui utilise ça à fond et avec vraiment du talent. Donc moi je lui mettrais la palme serait pour lui, ouais, 20 sur 20, en tout cas 19, ouais.
Donc 19 peut mieux faire.
Non, on peut toujours mieux faire, sinon ce serait terrible hein, s'il était arrivé au summum.
Dernière question, Bertrand. Si vous deviez poser une seule question au podcasteur, quelle serait la question que vous aimeriez lui poser?
La question que je me poserais, c'est pourquoi je passe autant de temps à faire des podcastings avec autant d'informations et donc autant de préparation, autant de temps de montage, alors que finalement ça ne me rapporte rien, alors que je pourrais tout à fait faire des podcasts qui soient tout simples avec mes impressions du jour, ma sortie dans la ville et puis deux, trois interviews à la volée qui seraient beaucoup plus légères et qui me permettraient d'exister sur la blogosphère. Je me demanderais vraiment à moi-même pourquoi je suis aussi exigeant avec moi-même.
Et la réponse?
La réponse, c'est parce que je suis comme ça. Et puis, voilà.
Merci Bertrand.
Merci Julien.
Voilà, le Podmag est terminé pour cette semaine. Je m'excuse d'avance pour les petits défauts de ce premier numéro. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne semaine et podcastez bien. À lundi prochain.